2026, c'est demain, et en 2026, vous le savez, nous aurons à voter pour les maires de nos 36 000 communes françaises. Dans cette campagne qui s'annonce, on espère très sincèrement qu'un sujet s'imposera comme majeur pour les candidats, l'écologie. Nous le savons désormais, beaucoup de choses peuvent se jouer au niveau local sur les enjeux climatiques pour créer des villes et des villages où le vivre ensemble passe par une compréhension et une application de propositions simples, notamment celles rédigées par les agences régionales de la biodiversité, dont celle de la région Centre-Val-de-Loire. J'ai avec moi deux salariés qui sont en plateau pour parler du guide « Ma commune demain, la nature comme solution ». Bienvenue à tous et à toutes dans « La chose commune ». Et oui, dans la chose commune, il y a commune, et la commune va occuper pas mal d'heures d'antenne et de conversations dans les mois qui viennent, donc à l'occasion de cette campagne municipale qui va arriver. Avec moi en plateau, bonjour à tous les deux, Alexandrine Gagnère, chargée de communication et de mobilisation au sein donc de l'Agence régionale de la biodiversité. Bonjour.
Bonjour.
Et puis Benjamin Virely, chargé de d'accueil des acteurs du territoire, c'est ça ?
Oui, d'accompagnement des acteurs.
D'accompagnement des acteurs du territoire. Vous allez nous expliquer tout ça. Et ben, est-ce qu'on peut déjà commencer par le commencement ? Donc, est-ce que vous pouvez, puisque c'est la première fois qu'on vous reçoit, est-ce que vous pouvez présenter l'Agence régionale de la biodiversité ?
Alors, l'Agence régionale de la biodiversité, c'est un établissement public qui a été créé en 2019 à l'initiative de l'Office français de la biodiversité et de la région Centre-Val-de-Loire. C'est un établissement, c'est avant tout un collectif de 22 membres, d'horizons vraiment très diversifiés, et qui a vocation à accompagner les acteurs du territoire, donc collectivités, entreprises, agriculteurs, dans leurs projets en faveur de la biodiversité. Donc à faire émerger et à mener ces projets en faveur de la biodiversité. L'agence aussi anime un portail de la biodiversité, donc là à destination vraiment de tous les acteurs, notamment le grand public, qui est un centre de ressources sur la biodiversité, donc pour retrouver toutes les informations et la connaissance sur la biodiversité régionale, et notamment des idées d'action, des ressources, des infographies, etc., pour faciliter justement ce passage à l'action en faveur de la biodiversité. Au-delà de ça, finalement, les structures membres sont très diversifiées, parce qu'il y a aussi les institutionnels, des métropoles, il y a aussi la CCI, par exemple, Centre-Val-de-Loire. Ouais. Donc c'est aussi ça, c'est toutes ces structures-là qui contribuent au portail de la biodiversité. Et vu qu'elles ont ces compétences différentes, finalement, ça crée, ça ajoute une plus-value de se dire que dans cette agence, il y a des compétences très, très diverses.
Est-ce que, on en parlait juste avant le début de l'enregistrement, le petit logo de l'OFB fait partie des signes qui sont associés à l'ARB, mais vous me disiez que c'était pas tout à fait pareil. Alors est-ce qu'on peut repréciser l'OFB et quelle est la différence entre les antennes locales de l'OFB, puisqu'il y en a une en Loire-et-Cher, et votre rôle à vous, voilà, comment vous êtes dépendant ou indépendant de cette structure?
Donc effectivement, on est lié à l'Office français de la biodiversité parce qu'ils sont à l'initiative des créations des agences et ils vont avoir un lien de financement aujourd'hui des agences. Mais on va être un établissement vraiment indépendant d'un point de vue structure. Mm-hmm. Donc comme vient de le dire Alexandrine, on a 22 membres dont l'Office français de la biodiversité. C'est la direction régionale de l'Office français de la biodiversité qui siège au sein de l'agence, mais on a une représentation donc des services départementaux aussi. Et c'est vrai que la principale différence, c'est que l'Office français de la biodiversité est un organisme d'État sous tutelle, double tutelle, ministère de l'Agriculture et de l'Écologie, avec une organisation à l'image des services de l'État, donc du central au national, et une organisation régionale et départementale. Nous, on va être uniquement à l'échelle régionale pour le Centre-Val-de-Loire, mais il y a d'autres ARB qui existent dans d'autres régions qui vont avoir leur propre gouvernance également. On n'a pas, nous, d'échelon départemental, on intervient dans tous les départements. Et l'autre principale différence qu'il faut quand même que je cite, c'est que c'est l'OFB qui représente aussi la police de l'environnement. Ouais. Et donc c'est une fonction qui leur est vraiment propre, avec les DDT qui peuvent intervenir aussi. Nous, on va vraiment pas sur ce champ-là.
Très bien, voilà, la précision avait besoin d'être faite, merci à vous deux. Donc on va rentrer dans le vif du sujet avec ce guide que j'ai en main, 2026-2032, voire peut-être même 2033 pour les maires, hein, puisqu'il y aura une présidentielle en 2032 et que en général les municipales et les présidentielles n'ont pas lieu la même année. Bref, Ma commune demain, la nature comme solution, donc ce petit livret que j'ai pu parcourir. Comment est né ce guide qui est maintenant accessible à tous et à toutes ?
Ce guide est né finalement du souhait de toutes les agences régionales de la biodiversité en France, puisqu'il a été créé par le réseau national, de créer un dépliant à l'occasion des élections municipales pour accompagner justement les élus et futurs élus dans leurs projets. Ça a été vraiment un projet co-construit avec les autres 10 autres agences régionales de la biodiversité, puisqu'on avait tout le souhait d'accompagner, comme on le fait finalement par nos missions, les élus dans leurs projets, et donc dans leur pour aussi qu'ils puissent penser leurs projets dès maintenant en faveur de la biodiversité.
Comment c'est rédigé justement à 10 agences réparties sur le département, ce petit livret qui est ultra homogène, assez généraliste, avec malgré tout des petits points, des petits focus, des petits exemples, on va dire, retour d'expérience, c'est le mot que je cherchais. Voilà, comment s'est construit un livret interrégional ? Il y a eu des comités de pilotage dans chaque agence, il y a eu 2-3 personnes tirées un peu, pas au sort, mais avec des compétences spécifiques pour la rédaction de ce guide ?
C'était une personne à chaque fois référente au sein des agences, puisqu'on connaît bien ces sujets. Et puis après, en interne aussi, on présentait aux collègues naturalistes, notamment ce qui était prévu dans ce dépliant. Et après, l'objectif, c'est que chaque agence a aussi ses missions propres et des missions similaires, parce que ça reste la France et les Outre-mer, on a aussi les mêmes enjeux, mais des enjeux qui sont, ne serait-ce que par la présence du littoral, qui peuvent être différents en fonction des territoires.
Sûr, ouais.
Mais l'objectif, c'était vraiment d'être à la fois général et concret. Donc finalement, on a réussi à avoir je pense les enjeux des territoires bien représentés, comme vous le disiez, à chaque fois avec un retour d'expérience régionale.
Ouais.
Donc finalement, tout le monde peut s'y retrouver dans ce document, grâce à des chiffres clés aussi qui nous concernent toutes et tous. Et puis après, chacun va se l'approprier aussi différemment. Donc nous, on l'accompagne en région d'une boîte à outils en ligne, collectivité et biodiversité, avec spécifiquement plus de retours d'expérience régionaux, plus de chiffres clés régionaux aussi qu'on a grâce à l'Observatoire régional de la biodiversité et des ressources régionales pour orienter vers les acteurs aussi spécifiquement régionaux. Donc c'est un petit package aussi qu'on adapte après en région.
On le voit, pour ceux qui l'ont qui ont pu le lire ou qui l'ont à portée de main, c'est un guide assez général et très facile d'accès, hein, avec on a bien vu l'axe avec que des verbes d'action, c'est conserver la végétation, désimperméabiliser, créer des îlots de fraîcheur, réduire l'éclairage nocturne, pour ne citer que. On n'est pas dans l'agroécologie de pointe, on a vraiment l'idée d'être le plus généraliste et le plus accessible possible. Je crois que c'était une vraie volonté, j'ai l'impression moi en lisant le document que c'est une vraie volonté.
C'est vrai que c'est un peu le choix des ARB aussi, c'est souvent d'aborder la nature et la biodiversité d'un angle un peu différent et sortir du carcan d'expertise naturaliste qu'on lui reproche souvent, qui fait que c'est un sujet complexe. Le 12 novembre dernier, c'était le lancement de la stratégie régionale de la biodiversité, en tout cas de la concertation pour travailler sur cette future stratégie. Et on voit bien qu'on peut parler entre experts et on a ce besoin d'ouverture. Le guide, le fascicule a vraiment été perçu comme ça pour essayer de sortir de la protection des papillons ou des mares qui sont peut-être des milieux trop spécifiques ou dont on ne voit pas forcément l'intérêt, pour essayer de revenir aussi sur les services rendus de cette nature pour que chacun puisse se sentir concerné. Vous retrouverez des entrées sur la santé, le cadre de vie. Évidemment, on revient sur un volet très anthropocentré de la biodiversité, mais pour capter l'attention et surtout faire que tout le monde puisse se sentir concerné, encore une fois, on est obligé de passer par par ce volet-là. Et ça vraiment, pour moi, ce message que portent les ARB aujourd'hui, de dire que la biodiversité doit sortir du volet expertise naturaliste et surtout du volet espèce remarquable spécifique, mais d'aller vraiment sur la biodiversité du quotidien, de tous les jours qu'on voit sur son chemin pour aller au travail, pour aller chercher les enfants à l'école. En fait, la nature, elle est partout et on en a besoin pour survivre. L'homme en fait partie de cette nature et c'est pourquoi ce fascicule, il a été conçu de cette manière-là pour le rendre accessible, pour faire en sorte que tout le monde se saisisse de ces sujets.
Effectivement, vous le disiez, Benjamin, c'est divisé en quatre chapitres. Je les nomme: agir pour la santé des habitants, agir pour la sécurité des habitants, agir pour l'attractivité du territoire et agir pour une alimentation durable. Donc au sein de ces quatre chapitres, effectivement, beaucoup de verbes d'action qui sont assez mobilisateurs. Hein. Il y a vraiment une envie de concerner au plus grand nombre. Et l'idée, j'imagine, d'être proactif, en fait.
Exactement. Et après, on a plein d'idées d'action qui sont citées aussi toujours avec ces verbes d'action, parce que c'est le plus important. c'est OK. Bien sûr, il y a une présentation de pourquoi il faut agir pour la biodiversité en lien avec la santé, en lien avec la sécurité. Donc, pour comprendre ce qui se joue. Mais après, une fois qu'on a compris ça, qu'est-ce qu'on fait ensuite sur le territoire et qu'est-ce qui peut être à la portée de tous, justement, pour agir? Donc, l'action, c'est l'objectif.
Et c'est une des questions que je me suis posée en le parcourant. C'est on parle de. Je suppose qu'il est à destination des élus, mais en fait, il est accessible vraiment à tout à chacun. Donc, il y avait aussi cette volonté de dépasser juste le cadre des conseils municipaux, on va dire, que chaque citoyen puisse s'en saisir. Voire même que ça donne envie de s'engager dans un conseil municipal, dans une liste, pour se mobiliser autour de ces sujets-là, dans sa ville ou dans son village.
Complètement. Vous l'avez dit.
Il y a l'engagement citoyen qui est au cœur de ça, finalement. C'est pas que pour les élus, pour les maires, allumer une lumière à l'intérieur de.
C'est aussi pour ça qu'il a été publié en amont, quasiment. Pas tout à fait un an avant, mais on l'a publié cette année, cet été, avec cette vision de préparer en fait les élections. C'est pas une fois que les élus sont élus qui peuvent agir, c'est aussi construire leur programme, leur vision pour leur territoire. Et c'est vrai que de toute façon, les élus ont beau être élus et aux manettes des communes, ne se font les projets que si c'est réalisé en concertation avec les habitants. Donc c'est aussi des arguments pour faire partager les enjeux, les projets, les volontés des élus auprès de leurs habitants. Ils peuvent se saisir de l'argumentaire qui est dans ces documents. Et l'idée, c'est de pouvoir faire ensemble. Ça, c'est vraiment encore un sujet extrêmement important. C'est que le territoire, il se construit ensemble. Les enjeux, ils se défendent ensemble. Et si je reprends l'exemple tout simple de la prévention du risque inondation et de la création de zones d'expansion de crues, par exemple, ou de la gestion de l'eau pluviale en ville, tout le monde a son rôle à jouer. Donc, on aura beau renaturer une rivière, on a besoin de terrain autour pour pouvoir le faire, lui redonner finalement le pouvoir de divaguer, de déborder. Mais pour ça, il faut discuter avec les privés à qui appartiennent ces terrains, avec les agriculteurs qui exploitent souvent ces terrains, avec les habitants pour comprendre aussi que si on sacrifie, entre guillemets, des terrains en amont de la commune, c'est pour éviter d'avoir les pieds dans l'eau dans la commune. On peut aussi avoir des terrains de sport qu'on va rendre inondables parce que quand il pleut, on est rarement dehors. Donc autant mutualiser aussi des espaces. Et c'est là où finalement, comme vous l'avez bien identifié, ce document, il a une portée plutôt collectivité. Mais tout le monde peut se reconnaître dedans et certaines actions peuvent vraiment se faire aussi au quotidien dans son jardin.
C'est presque un tract, on peut imaginer des citoyens en réunion publique brandir ce petit fascicule et puis dire voilà, y a plein de bonnes idées dedans, est-ce que ça vous parle, comment c'est possible de faire ça chez nous en fait. Je chantais l'engagement et la possibilité de se saisir de ça en réunion, en conseil. Il y a aussi, donc au-delà des exemples, des chiffres, etc., il y a deux pages qui sont assez intéressantes, qui sont consacrées aux idées reçues, des petites phrases pour contester un petit peu la possibilité, la marge de manœuvre des élus, des municipalités sur ces questions-là. J'en cite une ou deux. On se soucie plus de la nature ou des animaux que des habitants, ou restaurer les milieux humides, ça attire les moustiques, réduire l'impact de travaux de construction sur la biodiversité est impossible. Et donc, minutieusement, vous allez démonter ou en tout cas expliquer que il y a des interrogations, des préoccupations qui sont légitimes, mais qu'avec un peu de bon sens et d'anticipation, en fait, rien n'est infranchissable et rien n'est impossible à mettre en place pour améliorer les conditions de vie et développer et avoir un développement durable qui soit complètement sain.
Oui, et ça, typiquement, c'est un bon exemple aussi du fait que ce dépliant, c'est aussi un outil qui peut servir à communiquer auprès de ses habitants, au-delà de la construction de son plan d'action. Mmh. Parce que finalement, on entend souvent le besoin des élus de communiquer auprès... Parce qu'on nous dit souvent, moi j'ai compris l'enjeu, mais comment aussi faire comprendre à toutes et tous, parce qu'on a un niveau d'information différent, ouais, que justement, les mares, ça ne va pas attirer les moustiques. En tant que non-spécialiste, comment on explique simplement à ses habitants ces enjeux-là ? Eh bien, voilà, le dépliant aussi, ça, comme disait Benjamin, ça donne des arguments aussi concrets, justement, pour s'adresser aux habitants. Et puis, ça, on l'a construit aussi avec les autres agences. Donc, c'est des choses qu'on entend vraiment régulièrement. Et donc, c'est important de revenir dessus.
Seul petit bémol que j'ai, c'est sans doute un terme qui doit être familier des élus et des collectivités et qui ne parle pas au commun des mortels que je peux représenter, c'est la trame verte et bleue, qui est expliquée là, justement, dans ces pages sur les idées reçues. Est-ce que vous pouvez réexpliquer ce que c'est ? Parce que moi, j'ai dû aller chercher sur Internet ce que ça voulait dire. On comprend en substance ce que c'est, mais voilà, si on peut réexpliquer ce que c'est et quel impact ça a dans le fascicule et dans la vie des collectivités et des municipalités.
La trame verte et bleue, c'est un principe en fait qui est né il y a une quinzaine d'années maintenant, je crois que c'était autour du Grenelle de l'environnement, autour de la nécessité en fait pour que la nature, la biodiversité fonctionne, de pouvoir connecter des réservoirs qui ont une biodiversité riche et entre eux, ils ont des corridors. Ces corridors, c'est vraiment les couloirs de déplacement entre les réservoirs, mmh, qui permettent à finalement, je vais prendre l'exemple de l'écureuil ou du hérisson, hein, qui vont parler à tout le monde, ouais, de pouvoir se déplacer entre leur milieu de vie, les lieux où ils vont aller chercher de leur nourriture, mmh, et les lieux où ils vont peut-être se reproduire, qui sont différents. Ouais. Donc par exemple, on a l'image vraiment des oiseaux migrateurs qu'on, ouais, voit passer. Il faut l'adapter à chaque échelle des espèces. Mmh. Les oiseaux, ils peuvent passer au-dessus d'une infrastructure. Par contre, si je reprends l'exemple de l'écureuil, on a parfois besoin de l'aider pour passer au-dessus d'une voie. Donc on voit parfois émerger des écureuducs. Ouais. Donc finalement, on va avoir une corde entre deux arbres au-dessus d'une route pour éviter qu'ils passent à pied et qu'ils se fassent écraser. Et en fait, ces éléments de continuité, on les matérialise dans cette trame verte et bleue et ça va avoir une portée aussi réglementaire parce que ça va s'inscrire dans les documents d'urbanisme où on va identifier les réservoirs, et on va identifier les corridors qui fonctionnent. Par exemple, un réseau de haies permet aux espèces de se déplacer plus facilement. Les chauves-souris se basent sur ces réseaux-là pour se déplacer notamment. Et on va aussi identifier tous les points noirs, c'est-à-dire les coupures dans cette trame verte et bleue. Je reprends l'exemple de la route, mais ça peut être aussi l'exemple de l'éclairage pour les, ouais, chauves-souris, par exemple, ou ça peut être aussi des exemples, on y pense un peu moins, mais les barrages sur une rivière, hein, pour le volet bleu de la trame, où on a aussi dans cette trame verte et bleue des nouveaux concepts qui émergent, de trame blanche, de trame brune. La trame brune, c'est la continuité du sol. Le fait qu'on a aussi des espèces qui sont dans le sol, qui ont ce besoin de se déplacer aussi, souvent sur des distances beaucoup plus faibles que des oiseaux, vous l'imaginez bien. Mais en tout cas, on s'aperçoit que l'aménagement qu'on peut réaliser vient rompre ces fonctionnalités-là de sol. Et donc, on a besoin d'y travailler. Donc, on a aujourd'hui des secteurs où on renature des sols aussi pour reconnecter un espace vert d'un autre en retravaillant un revêtement perméable, par exemple, et une biodiversité du sol.
Merci pour ces explications. Est-ce que je voudrais qu'on glisse vers, maintenant que ce guide est disponible, j'avais la version que numérique, mais j'ai la version papier dans les mains. Vous le disiez, Benjamin, il a été édité cet été. Il y a déjà des retours, on peut en parler un petit peu. Comment ce fascicule, ce livret, ce guide vit désormais dans les mains des citoyens, voire des élus, et votre rôle justement pour accompagner le déploiement de ce guide?
Ça a été le début finalement cet été. On l'a notamment distribué aux rencontres biodiversité et territoire, donc un événement qui était finalement national.
Okay.
Ensuite, on l'a envoyé aussi à nos réseaux, aux collectivités qu'on accompagne déjà. Il va être envoyé aussi aux communautés de communes et ensuite aux nouveaux élus forcément qui arriveront. Donc c'est vraiment un projet long terme. Et en tout cas, les premiers retours qu'on a eus, bah, c'est finalement ce qu'on disait sur le fait que c'est un document très concret. Qui, grâce à ces axes qui sont en lien avec les compétences directement des élus, ben, facilite la compréhension et facilite les choses. C'est vraiment cet angle-là, sa spécificité, santé, sécurité, attractivité, alimentation, qui est ressorti des premiers retours qu'on a eus.
Est-ce qu'il y a aussi eu des interrogations, des freins autour de ce guide ? Est-ce que vous avez des retours aussi de gens qui aimeraient bien, voilà, on en parlait déjà un peu, mais voilà, qui sont encore un peu sur le frein ?
Moi, les quelques retours que j'ai, c'est peut-être qu'il est encore trop général,
ouais.
Mais c'est plutôt les gens qui sont déjà sensibles au sujet
qui
ouais. voudraient aller plus loin.
Mmh.
Et c'est là tout l'intérêt, c'est encore ce que rappelait Alexandrine tout à l'heure, c'est qu'on est vraiment dans une porte d'entrée par ce document-là pour aller vers les ressources que possède chacune des ARB sur leur propre site internet, chez nous, le portail de la biodiversité que vous retrouverez assez facilement sur internet, et avec les spécificités régionales, parce que vous l'imaginez bien, travailler la végétalisation en ville pour lutter contre les îlots de chaleur, par exemple, en Centre-Val-de-Loire, on ne va pas mettre les mêmes végétaux que si on travaille à Marseille.
Mmh.
Et donc ça nécessite derrière, pour rentrer dans la mise en œuvre, une fois qu'on a compris les concepts, les enjeux, de se reprendre contact avec les agences pour aller vers les outils, vers les réseaux des acteurs, vers les financements qui existent dans chacun des territoires pour passer à l'action. Et c'est vrai que aujourd'hui, moi, j'ai plutôt ce retour des gens qui sont déjà à fond, qui veulent aller plus loin. Et ce document-là, finalement, n'y va pas parce qu'on va chercher les autres, ceux qui sont encore indécis, qui ne comprennent pas les sujets.
Et besoin d'être informés. Ouais.
C'est ça. Mais globalement, les retours sont quand même très positifs.
Ouais. Et quel travail, justement, vous allez vous en parler un tout petit peu, Alexandrine. Quel travail vous allez pouvoir mettre ? Est-ce que je m'engage dans une liste pour les élections ? Je vais organiser des débats, des rencontres avec les habitants, les habitantes de mes villes, de mes villages. Est-ce que je peux vous appeler, vous, l'ARB Centre-Val de Loire, pour venir expliquer le guide, discuter avec... est-ce que vous allez faire ce travail de médiation ? Est-ce qu'il y a d'autres gens ? Est-ce que vous allez renvoyer vers des structures plus locales, etc. Comment vous allez travailler avec ce guide ? Comment vous allez faire jusqu'en mars 2026 ? Et au-delà, peut-être ?
En tout cas, oui, on peut rentrer en contact avec l'agence pour creuser des sujets, pour mieux comprendre certaines choses qui sont expliquées dans le dépliant. Ça, c'est sûr. Je pense que notre travail, et ça reste à construire aussi en équipe, ce sera plutôt dans la seconde partie, accompagner, puisque c'est notre mission première aussi, accompagner les collectivités en place. Donc, une fois les élections passées, ce sera justement être disponible à la rencontre pour ensuite aller plus loin dans ce passage à l'action.
Merci beaucoup à tous les deux. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter, des éléments qu'on n'aurait pas mentionnés, qui vous semblent importants à donner ?
Moi, j'en aurais plein, mais je pense qu'il faut aussi
allez-y, vous avez un peu
être concis.
Si vous voulez.
Mais je voudrais vraiment insister sur les derniers éléments là, qu'Alexandrine a précisé, qui pour répondre à la question. Le fondement même de l'agence, c'est quand on a une question de biodiversité qu'on ne sait pas vers qui se tourner. Mmh. On peut avoir les contacts déjà avec les associations locales notamment, mais si on ne sait pas vers qui, l'ARB est là pour orienter. On est vraiment un réseau, que ce soit vers nos membres ou au-delà de nos membres, évidemment. On travaille beaucoup notamment avec, par exemple, les CAE, qui sont très dynamiques, notamment dans le Loir-et-Cher aussi, le CAE
absolument.
De 41.
Ouais.
Mais c'est vrai que les sujets qu'on porte aujourd'hui... vous l'avez un peu deviné, le sujet de la nature, de la biodiversité, c'est des sujets transversaux par naissance même. Ils ont besoin
d'être... Ils sont censés dépasser les clivages
c'est ça.
De
déjà,
parties.
Déjà, les clivages de parties, mais même au-delà des projets. Et c'est pour ça qu'on a aussi voulu ce document-là plutôt sur les entrées de compétences.
Ouais.
Moi, je prends souvent l'exemple des collectivités qui sont énormément incitées, voire financées, à faire de la rénovation énergétique du bâtiment. Sauf que souvent, on oublie la faune du bâti qui est présente sur ces bâtiments.
Mmh.
Et lorsqu'on lance les projets, on va déranger, voire supprimer ces animaux, parce qu'on ne sait pas comment il faut faire. Or, aujourd'hui, toutes les solutions techniques sont là. Et vraiment, l'idée, c'est de pouvoir créer des réflexes autour de la biodiversité, se poser les bonnes questions. Parfois, il n'y aura pas de sujet biodiversité. C'est assez rare, on ne va pas se mentir. On pourra toujours trouver du sujet, mais est-ce que l'enjeu en vaut la chandelle ? C'est ça qu'il faut vraiment se poser. Et surtout, est-ce qu'on ne peut pas avoir une opportunité ? Et vraiment, le titre du document, La nature comme solution, c'est qu'aujourd'hui, les services que nous rendent la nature, c'est au cœur de notre quotidien. Sur la gestion de l'eau, on a vu dans le département aussi énormément de pluies orageuses avec des coulées de boue, des inondations, parce qu'on n'arrive pas à gérer cette eau qui tombe en quantité massif, hein, sur des petites périodes.
Sur des terres très secs notamment.
Qui sont principalement dues à l'artificialisation de nos territoires, mais aussi à certaines pratiques agricoles parfois, où on va avoir tout simplement le sens du labour qui est dans le sens de la pente. Donc tout de suite, quand l'eau tombe dessus, là, si la terre est nue, elle va embarquer cette terre et créer des coulées de boue. Et justement, notre objectif, c'est de reposer la question de la nature dans notre quotidien pour se dire, bah, en fait, si on prend soin de la nature, on prend soin de nous. Et c'est pour ça qu'on parle de sécurité, de confort thermique, etc. Et c'est vraiment là-dessus où l'angle de l'agence prend l'ampleur, surtout au regard des élections, qui sont des moments assez importants dans la vie des territoires, pour pouvoir inscrire ces réflexes-là dans les projets de ces territoires. Donc là, j'insiste vraiment sur ce sujet-là. N'hésitez pas, l'agence est là. On n'est pas, forcément en capacité de répondre à tout, mais on pourra vous orienter vers les réseaux qui sont sur les territoires, qui existent, qui travaillent depuis parfois beaucoup plus longtemps que nous aussi, et qui sont parfois méconnus.
Et qu'on essaye au maximum, nous ici à Studio ZEF, de recevoir justement dans la chose commune. Merci donc Alexandrine Gagnère et Benjamin Virli donc de l'ARB. On en a parlé pendant 30 minutes. On mettra évidemment le PDF, la version numérique, sur le site, sur la page de cette émission. Merci à tous les deux. Donc 2026-2032, ma commune demain, la nature comme solution, est un document dont vous pouvez vous saisir pour faire avancer les questions environnementales auprès de vos élus et des communes. C'est la fin de cette émission. Merci à vous deux d'être venus d'Orléans jusqu'à chez nous. L'émission est donc à retrouver en podcast. Bonne journée sur les ondes de Studio ZEF. Salut à tous et à toutes.